Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre rendez-vous hebdomadaire de l'économie, de la finance. Notre monde ressemble bien cette semaine à celui de la semaine dernière, une certaine continuité avec une invasion russe en Ukraine qui continue à avoir un impact sur l'économie mondiale et européenne, puisque la croissance sur la zone euro a ralenti de 0,2%. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé concernant les chiffres du quatrième trimestre 2023. On a toujours un niveau d'inflation élevé qui est sur un 5,9 au mois de février 2024, ce qui reste tout à fait conséquent. Et puis la Chine, toujours cette problématique du ralentissement de la croissance. Ça, on en avait déjà parlé dans Economia et cela se confirme. On a ralenti à 4,8% au premier trimestre de cette année 2024. Au Maroc, le Conseil économique et social et environnemental a rendu public une série de recommandations pour prendre en charge les personnes les plus vulnérables dans le pays et essayer autant que faire se peut d'adoucir la vie des gens qui sont en souffrance et qui sont dans une situation de pauvreté. C'est là un défi tout à fait important, même essentiel, que de venir en aide envers ceux qui sont les plus pauvres. On va en parler avec Hassan El Arafi, qui est enseignant économiste, qui connaît parfaitement bien ces dossiers. Quelle approche vous pourriez nous en proposer?
On ne peut pas parler de développement si on n'a pas de la paix sociale.
Bien sûr.
Même si parfois vous avez un taux de croissance économique important, mais si vous n'avez pas une stabilité sociale et si vous n'avez pas une croissance économique inclusive. Il y a des indicateurs qui sont adoptés par le HACCP,
oui.
Donc dans lequel on distingue entre la pauvreté, les niveaux de pauvreté, la vulnérabilité. Parce qu'il y a de la carte de la pauvreté qui a été élaborée par l'ONDH, dans lequel il a essayé de repérer.
De quantifier, absolument.
Et de repérer les zones de pauvreté, d'abord sur le plan géographique, en distinguant entre les régions qui sont le taux de pauvreté est le plus accentué. Et en même temps, avec le nouveau système que le Maroc est en train d'adopter, le registre national de le social, et donc ils ont mis un certain nombre de critères avec des indicateurs qui vont permettre à l'État de classifier socialement la population. Ceux qui ont besoin de soutien, ceux qui ne sont pas... Et je pense que cet instrument... Il est plus efficace, à mon avis, des études statistiques que l'ACP a eu l'habitude d'organiser afin de mesurer la pauvreté.
Mais est-ce que la pauvreté est
un recensement général.
D'accord, la pauvreté n'est pas un phénomène marocain, c'est un phénomène qui est mondial. Il y en a même dans les pays les plus riches du monde, la pauvreté existe. Aujourd'hui, dans la perception que vous avez en tant que professeur d'économie, en tant qu'excellent connaisseur du royaume du Maroc, quels sont les facteurs conjoncturels qui explique la persistance de la pauvreté? Quels sont aujourd'hui les éléments qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi une personne est pauvre? Est-ce que ça, aujourd'hui, on arrive à l'identifier?
Votre question, il me livre à ce qu'on appelle l'indice de pauvreté multidimensionnel.
Ah, racontez-nous.
Je pense. Donc, cet indice est en soi composite. Et donc... Il s'agit d'une valeur unique qui est calculée en combinant entre plusieurs critères qui considèrent le cumul des privations, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de niveau de vie. Et donc, ça, c'est un indice dans lequel, c'est-à-dire quelqu'un qui est pauvre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la possibilité, n'a pas l'accessibilité aux services publics collectifs, comme je viens de le dire, la santé, l'éducation, etc. Quelqu'un qui n'a pas de ressources,
Oui, mais pourquoi Oui, d'accord, mais je comprends, mais pourquoi les gens... Parce que c'est dû à quoi, je veux dire, parce que bon, c'est sûr qu'après, il y a des phénomènes de continuité familiale. C'est vrai que les gens, d'ailleurs, c'est assez cruel, hein, les gens qui sont issus des milieux aisés ont plus de facilité que les personnes qui sont issues de milieux plus modestes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais c'est vrai aussi qu'on est dans des sociétés, là, je parle de sociétés mondiales, hein, je ne parle pas du Maroc, on est dans des sociétés qui sont... dur économiquement, en plus on a vécu des périodes qui étaient difficiles ces dernières années, et on peut parfois aussi se dire, tiens voilà, il y a des gens qui vont tomber dans la pauvreté, qui vont verser dans cette pauvreté, parce que voilà. Donc est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre quels sont les éléments qui peuvent conduire aujourd'hui des personnes résidentes sur le territoire à se retrouver en situation de grande précarité sociale ?
Il faut dire que quand on parle de la pauvreté... Oui. Ne se caractérise pas seulement par un manque d'argent.
Ah.
Quelqu'un qui... D'accord. Ça, c'est même dans les calculs composites de la pauvreté multidimensionnelle, ce n'est pas le seul élément. C'est-à-dire que le manque d'argent. Donc, les raisons de la pauvreté elles peuvent être aussi multiples que diverses. Mm-hmm. D'abord, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'accès à des ressources. Il est en chômage. Sûr. Quelqu'un qui souffre de la chasteté de la vie, l'inflation. Mmh. Quelqu'un qui vit dans un environnement cloisonné, par exemple, les campagnards dans le monde rural qui souffraient de plusieurs carences en matière d'accès aux services publics.
Mmh,
et donc, la pauvreté, il peut avoir... Il y a des indices qui vont plus loin pour mesurer la pauvreté, en allant dans la manière où la bouffe. Ouais, même on essaye de... par exemple, la FAO, ils ont quelques études pour mesurer qu'est-ce qu'il y a. Il y a des régions, par exemple, dans l'Afrique subsaharienne, manger trois fois, c'est un luxe.
Bien sûr,
abstraction hélas, sexe où vous allez manger. Vrai. Donc, l'indice de la pauvreté, quoique c'est un indice qui... reconnu universellement, mais il reste toujours un indicateur brut. Il faut le contextualiser.
Bien sûr.
Quand on parle d'une personne pauvre en Europe, c'est pas
bien sûr, c'est pas la même chose. On est bien d'accord.
Mais alors, au Maroc.
Oui. Justement, le Conseil économique, social et environnemental, donc le CESE, a fait des recommandations pour l'amélioration des programmes de prise en charge sociale, donc des catégories de population qui sont les plus vulnérables. Je suppose que vous pouvez vous féliciter de ce type d'initiative. Ça vous semble être important de procéder ainsi pour continuer ce travail de lutte contre d'aide en fait, de soutien, d'entraide envers les personnes les plus vulnérables. Oui. C'est important.
Oui, bien sûr. Je pense que le Maroc est en train de faire des pas notables, remarquables, pour lutter contre les manifestations de la précarité, de la pauvreté et de la vulnérabilité.
Ouais.
Je pense que le fait aujourd'hui de miser sur la généralisation de la sécurité sociale et de la couverture sociale, c'est déjà un pas audacieux, vu les moyens du Maroc. Parce que ce n'est sur le plan
cher,
financier,
c'est
quelque chose qui coûte trop cher. Mais il reste toujours souhaitable que cette lutte qui doit être durable et continue contre les phénomènes de précarité et de pauvreté continue avec d'autres initiatives qui devront accompagner cette mesure de généralisation. La première des choses, c'est le chômage. Ça,
c'est terrible, c'est absurde.
C'est terrible parce que c'est la cause principale de la pauvreté.
Bien sûr.
Il suffit de dire qu'aujourd'hui, la prévalence de la pauvreté aujourd'hui, elle touche presque plus que 3 millions de citoyens marocains.
C'est gigantesque.
Donc, est conjugué à un taux de chômage atteignant 13,5%, si ma mémoire est bonne, en 2023. Et donc, à mon avis, il est notable que le taux de chômage a augmenté, tandis que le nombre de demandeurs d'emploi a diminué.
Mais ce qui est quand même... Mais absolument, vous avez raison, mais c'est vrai aussi que quand même, au Maroc, et ça, je ne dis pas du tout qu'il faut s'en satisfaire, ça doit être résolu, mais c'est vrai que les personnes qui sont pauvres au Maroc bénéficient quand même de la solidarité nationale. Il y a quand même une entraide, C'est-à-dire, les gens ne sont pas seuls et perdus. À la fois, c'est bien parce que ça veut dire que les gens ne sont pas dans des situations désastreuses. Après, on ne peut pas s'en tenir là, on ne peut pas s'en satisfaire. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Au Maroc, l'entraide, elle est là, elle est bien réelle.
Je pense qu'il y a un élément extrêmement important qu'il faut souligner et qui tempère les retombées de la pauvreté chez nous au Maroc et de la vulnérabilité, c'est la solidarité familiale. La solidarité nationale et là, ces mécanismes institutionnels que l'État essaie de mettre en place à travers les dépenses de transfert, à travers le soutien aux ménages, à travers pas mal de choses. Mais un élément chez nous, au Maroc, vous trouvez qu'une personne, il peut prendre en charge toute sa famille, parce que c'est le seul qui travaille. Il fait le social que l'État devait le faire.
Bien sûr.
Et donc, ça, c'est un élément, je pense qu'il faut toujours le maintenir, parce que c'est un facteur assez important.
De cohésion, de cohésion sociale.
De cohésion et de la stabilité sociale.
Bien sûr.
Seulement, je veux dire qu'il y a, par exemple, vous trouvez pas mal de personnes âgées qui ne sont pas prises en charge par l'État, ils sont prises en charge par leur fils, par leur fille, etc. Mais le problème, c'est que notre système fiscal, on ne reconnaît pas qu'il y a des charges importantes qui sont supportées par des personnes en vue de protéger socialement leurs proches, mais il n'y a aucune déductibilité.
Bien sûr, oui, tout à fait. Il y a un projet de réforme fiscale au Maroc.
Mais il ne va pas prendre ça en considération.
Ah.
Malheureusement, alors la déductibilité de... Parce qu'il y a pas mal de choses qui se font dans notre société et des prises en charge. Maintenant, la majorité des personnes âgées qui n'ont pas de sources sont prises en charge par leur fils. Quelqu'un qui est un chômeur ou des chômeurs dans la famille sont pris en charge par leur frère ou leur sœur qui est la seule qui bénéficie d'un poste dans le monde du travail.
Mais regardez, c'est quand même, encore une fois, je veux dire, c'est vraiment toute l'ambivalence de cette notion que vous soulevez très habilement. C'est vrai que quand on compare avec la France, il y a des gens qui n'ont même pas cette solidarité. Alors, encore une fois, cette solidarité, elle est formidable. Il ne faut pas s'en satisfaire. Il faut que la situation des individus s'améliore en tant qu'individualité propre. Mais c'est vrai que, regardez, vous vous souvenez de cette période où on avait eu une séquence extrêmement chaude avec des gens qui étaient décédés en plein mois d'août. Personne n'était allé. C'était épouvantable. Et vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont des personnes âgées en France qui sont complètement abandonnées. Alors, effectivement, la solidarité de l'État est là parce que l'État est plus riche. Est-ce que ça marche mieux? Je sais pas, je me pose la question. Mais encore une fois, je reviens vraiment sur, parce que je pense que c'est une idée qui est très forte. C'est qu'il faut pas s'accoutumer à la solidarité. C'est bien, c'est formidable, mais ça suffit pas, faut aller plus loin. Mais c'est vrai que on est vraiment dans l'ambivalence de cette question.
Oui, écoutez, il y a la solidarité, comme je vous ai dit, institutionnelle, et qui est mise en œuvre à travers plusieurs mécanismes et programmes qui visent de lutter contre la pauvreté, la réduction des disparités, etc. On peut citer le régime AMO, le programme CICIR, le programme d'assistance aux personnes aux besoins spécifiques. Et quand même, le Maroc, il dispose aujourd'hui plus que 1250 centres sociaux destinés à accueillir différentes catégories des personnes en situation de précarité.
Oui.
Donc, à travers, je pense, l'entraide nationale et autres institutions aussi. Mais dans notre thinking, dans notre esprit socioculturel au Maroc, il est encore mal vu qu'une personne soit délaissée par sa famille et le faire abriter par un centre social. Quelque chose qui est très mal vu dessus. Peut-être qu'en Europe, c'est normal.
Oui, parce que c'est l'idée de l'abandon.
C'est pas qui va s'en occuper.
Ouais.
Mais dans notre système de valeurs, n'admet pas encore que une personne âgée ou des personnes âgées qui soient mises dans une maison de retraite ou maison de personnes âgées alors qu'ils ont de la famille. Donc ils préfèrent de rester entourés par sa famille au lieu qu'ils soient pris en charge dans un cadre institutionnel qui veille sur cette catégorie de personnes. Moi, je dis que le développement doit toujours être lié au système de valeurs.
Absolument.
Et donc, à quoi sert d'avoir un taux de croissance, de la modernité, etc., et nous avons une dislocation sociale. Nous avons de manque de cohésion. Je pense que les Marocaines et les Marocains sont conviés à protéger ces valeurs, à protéger ces valeurs familiales. Heureusement qu'on a encore quelques occasions qui permettent de ressouder ces relations. Et je pense que la notion de la famille, elle est extrêmement importante. Et c'est la clé de voûte. Je pense que dans notre développement social au Maroc, l'État fait son travail. Mais aussi, je pense que un élément important qu'il faut mettre en exergue, c'est le système des valeurs des Marocains.
Et ça, c'est une idée. Ça, c'est une idée qui est hyper intéressante. Je trouve qui est très intéressante. C'est l'idée que on peut monter un système social X ou Y, mais il doit s'appuyer sur les valeurs endogènes de la société dont il émane. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas exporter un modèle lambda et l'appliquer partout. Les pays sont différents, les peuples sont différents les uns des autres.
Tout à fait. Et je pense qu'il y a c'est axiomatique aujourd'hui. Je pense si on met pas en relief le système de valeurs avec la stratégie de développement, ça ira pas. On tombe dans le mimétisme et on tend à confondre la croissance économique avec le développement. Alors ce sont deux notions tout à fait différentes. Elles se complètent, mais elles sont tout à fait différentes. Et atteindre un développement, un vrai développement intégré, je pense qu'il faut le lier avec le... Mais il faut identifier ces valeurs.
Bien sûr.
Parce qu'aujourd'hui, si on demande à un jeune ou on demande à un citoyen, quelles sont vos valeurs ? Quand je dis valeurs, ce n'est pas les slogans de l'hymne national.
Oui, voilà, ça rien, bien sûr.
Non, ça, c'est autre chose. Mais quelles sont les valeurs des Marocains ? Je pense que, à ma connaissance, le Parlement avait... élaborer une étude, je pense, dans ce sens, volumineuse, pour essayer de connaître d'abord ce système de valeurs et pouvoir travailler là-dessus afin que chaque citoyen et citoyenne comprennent quels sont ses droits et ses obligations dans la société.
Absolument. Mais c'est vrai aussi que la lutte contre la pauvreté dans tous les pays du monde, alors à des échelles qui sont différentes si vous êtes en Russie, aux États-Unis ou en Chine, ou au Maroc, ou peu importe, mais c'est vrai que c'est aussi c'est un coût budgétaire qui est sérieux et qui est nécessaire pour qu'il n'y ait pas une frange de la population qui reste à la marge du développement économique. Et c'est vrai que c'est très difficile et aussi très onéreux de lutter contre le décrochage finalement d'une partie de la population, alors que l'une accède au plein emploi, à la CNSS, à la protection sociale, au crédit, aux vacances, etc. Et puis d'avoir une population qui est toujours en souffrance, qu'on n'arrive pas à raccrocher au wagon. Ça, c'est un coût budgétaire finalement assez important.
Oui, mais si vous voulez mon avis là-dessus, moi, je distingue entre l'état social et l'état de l'assistanat. Le fait de tabler uniquement sur le soutien et les dépenses de transfert de l'état vers les ménages, ça c'est de l'assistanat de l'état. Mais l'état social, même, c'est un grand titre que le gouvernement l'adapte, mais il faut le...
Il
faut le faire comprendre. L'état social signifie pas l'état de l'assistanat. Nous avons l'exemple de la France qui était un état de l'assistanat trop social. Mais à un certain moment, c'est pas durable.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a des externalités négatives. Donc, quand vous faites de l'assistanat uniquement, vous êtes en train de favoriser une partie de la société, mais au détriment d'une autre partie qui travaille.
Bien sûr.
C'est la raison pour laquelle moi je suis pour un état social qui puise sa signification de ce qu'on appelle la théorie de ruissellement.
C'est-à-dire, on va finir par ça, c'est quoi cette théorie ?
Théorie de ruissellement, c'est-à-dire, quoique, mais c'est une théorie qui est critiquée par les uns et les autres, mais quelle est sa signification? Moi, je suis pour cette terre, parce que l'assistanat, il peut engendrer la paresse, et il peut engendrer que les gens, ils déjouent les procédures pour pouvoir bénéficier, etc. Il peut, bon, mais la théorie de ruissellement estime qu'une politique de l'État favorisant les revenus des plus riches, notamment par une réduction de leurs impôts, et profite à toute l'économie. C'est-à-dire que vous voulez réduire, vous voulez réduire la pauvreté, il faut augmenter le taux de croissance de l'économie. Ce qui est important, ce n'est pas donner à une personne, parce que même si vous lui donnez chaque mois un revenu stable, et il y en a certains qui en a besoin, parce qu'ils n'ont pas la capacité de travailler, mais si les gens qui ont de la capacité de travailler, ils attendaient pour s'inscrire au chômage, comme on a ce phénomène en France, pour pouvoir bénéficier, ils ne vont pas travailler demain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour lutter contre la pauvreté, c'est la croissance économique qui doit avoir des effets d'entraînement pour le marché de l'emploi et créer des postes de travail pour les chômeurs potentiels. Il y a une équation qui est très simple. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on souhaite soit en tant qu'institution, là, en tant qu'individu, c'est la paix sociale.
Bien sûr.
Le gouvernement, alors la paix sociale exige un développement. Le développement exige de la croissance. La croissance exige du capital fixe. Le capital fixe exige de l'investissement. L'investissement, elle exige de l'argent, c'est-à-dire une épargne, que ce soit nationale ou étrangère. Et donc, pour atteindre pour réduire la pauvreté et gagner la paix sociale, je pense que l'entrée principale sont deux choses. D'abord, le travail. Et quand je dis le travail, c'est le facteur le plus important dans l'équation des facteurs de production. Voilà. Et donc, ça, c'est l'équation. Et les valeurs.
Que vous nous avez déjà présentées, absolument, qui sont tout à fait importantes.
Pour moi, ce sont des. Et donc, quand on fait le ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des entreprises ou qu'on ait un tissu économique qui peut créer de la valeur, de la plus-value pour la société.
Très bien,
et toute la société va en profiter. Moi, personnellement, c'est vrai que c'est séduisant, politiquement, c'est séduisant, c'est attractif que l'État il intervient avec sa main visible pour corriger les dysfonctionnements du marché et essayer de réduire les externalités négatives du marché. À travers ces subventions, ce que Friedman appelle un point négatif. Mais malheureusement, ne sont pas des solutions durables. Ce sont des solutions qui sont valables à un certain moment, mais après, il faut que le système s'auto-fonctionne systématiquement pour qu'il engendre la richesse, et cette richesse, elle devrait être partagée sur l'ensemble de la population par un mécanisme de croissance inclusif. La preuve, c'est que les pays riches qui sont bien développés et qui ont une qualité de vie n'ont pas un système social de solidarité commun. Ils ont des systèmes d'assurance. Peut-être ce que je suis en train de dire, il peut paraître un peu utopique par rapport à notre situation.
Non, mais il faut bien sûr. Il faut rêver pour savoir où on veut aller. Absolument, c'est important.
Je dis la norme. Dis la norme. Parce que aujourd'hui, il y a un risque potentiel. Si vous acculturez les gens à être subventionnés, demain, ils ne vont pas travailler.
Merci Hassan Al-Arafi. On retiendra de cette interview, de cet entretien, la théorie du ruissellement, qui était tout à fait intéressante. On reste au Maroc avec ces chiffres qui ont été publiés par un portail spécialisé qui s'appelle Alpha Liner pour l'année 2024 sur 500 port à conteneurs dans le monde. Le port de Tanger Med occupe la 19e position, ce qui est un élément tout à fait intéressant pour les activités portuaires du Royaume du Maroc. Je vous propose d'écouter la réaction de Rachid Wari, c'est le directeur central du groupe Tanger Med. Il est au micro de Youssef Nouamani.
Le Maroc disposait d'un certain nombre de ports avant Tanger Med, qui sont importants comme Casablanca ou Jorjousfor. Mais grâce à Tanger Med, on rentre dans une autre cour des ports internationaux qui sont des hubs mondiaux et qui permettent au Maroc d'échanger avec le reste du monde. quand on parle de 8 600 000 conteneurs, il faut rappeler que c'est le plus grand port d'Afrique, c'est le plus grand port de la Méditerranée. Il y a à peine une dizaine de pays qui ont pu se classer dans ce top 20 mondial, à peine une dizaine de pays. Et quand on voyait le Maroc figurer parmi une dizaine de ces pays-là sur quand même à peu près 200 pays dans le monde, donc c'est une fierté de pouvoir se positionner parmi cette liste très restreinte des ports les plus compétitifs et les plus importants au monde.
Voilà, merci Washid Ouari d'avoir été avec nous dans Economia. Excellente semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations économiques et financières sur la planète Terre. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.